niveau d'espérance pour l'avenir. Premier niveau, première source, l'espérance qui vient du fait même d'être simplement, mais c'est déjà beaucoup, vivant. L'Ecclésiaste dit, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et avec son art de l'image forte, il dit, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Première source et premier niveau d'espoir et d'espérance. Deuxième, l'espérance qui vient de la sagesse de l'homme et de sa bonne façon de vivre. La sagesse et la paix, nous l'avons lu, procurent une longue vie, en tout cas bien davantage que la violence et la haine. Vous vous souvenez de ce que nous avons lu dans les conseils du livre des Proverbes, où il est dit que celui qui reçoit l'instruction, le fils auquel le père communique son savoir, est encouragé à rechercher la sagesse, et cette sagesse doit lui procurer même la santé, en quelque sorte. Et il le dit explicitement, elle est un arbre de vie, elle est quelque chose qui nous ouvre un espace du possible devant. L'espérance, oui, elle s'enracine dans ce deuxième regard sur la sagesse et sur une façon de vivre conforme à ce que Dieu enseigne. Car Dieu non seulement a créé les êtres humains et les a mis sur la terre, mais il leur a donné aussi le mode d'emploi de la vie. Et puis, bien sûr, il y a cette troisième source et ce troisième niveau d'espérance, qui est l'espérance qui vient de la foi en Dieu. Tu es le Dieu qui me sauve, tu es toujours mon espérance, dit le psalmiste. Et nous pourrions lire beaucoup de textes semblables. Dans un autre psaume, j'ai mis toute mon espérance en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu. Dieu relève ceux qui sont abattus et qui se tournent vers lui. C'est pourquoi, dans cette expression et dans celle que nous allons maintenant considérer, nous avons l'espérance, non pas comme ce long fleuve tranquille dont il est question, mais comme quelque chose qui est une ressource inépuisable de vie pour tous ceux qui se confient en Dieu. Il y a évidemment des liens entre ces trois sources, le fait d'être vivant, la sagesse de vie et la foi en Dieu. La dernière donne sa force à la seconde qui donne sa qualité à la première. Mais je voudrais revenir quelques instants sur, en particulier, le texte des Lamentations, où nous voyons que Jérémie, qui a été un prophète, qui, dans la fin de son parcours, a dû faire face à beaucoup d'épreuves, même au début, mais ça s'est accentué, et qui a été aussi le porteur d'un message difficile pour un peuple qui s'égarait, qui se détournait de Dieu et qui répétait ses égarements. Alors, ce que nous voyons avec Jérémie, c'est ce passage de l'espérance morte à la résurrection de l'espérance. C'est que l'espérance que Dieu procure peut être mise à mal et même brisée par le péché. C'est l'expérience donc de ce peuple de Dieu à la fin de sa période historique racontée dans l'Ancien Testament. Les prophètes de cette période, entre autres Jérémie, Osée, mais aussi les autres, font référence à ces infidélités du peuple. Et Jérémie, qui se solidarise complètement avec son peuple, qui souffre lui-même directement de sa fidélité et du message qu'il proclame, parle des conséquences de ses péchés et gémit d'une façon terrible sur cette absinthe, ce poison, cette misère. Et il en arrive même à un moment de désespoir. Mais, et pour ceux qui croient, il y a toujours ce « mais » du regard qui revient vers Dieu. « Mais, voilà, je n'ai plus d'espérance, mais. Mais voici ce qui me donnera de l'espérance. » Et dans presque le choc des mots, dans ce voisinage si proche, entre ces deux expressions de Jérémie, « Je n'ai plus d'espérance. » Et voici ce qui me redonnera de l'espérance. Il y a toute la force de ce contraste entre le mal si facilement envahissant, si généralement répandu, et qui peut aussi si facilement nous atteindre. Et tous les sujets de découragement qui peuvent à un moment ou à un autre, lorsque s'accumulent les souffrances, nous atteindre nous aussi et peut-être parfois nous envahir. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici ce dont je veux me souvenir. Et c'est un choix, le choix d'un regard nous avons. Chanté, nous tournons nos cœurs vers toi. Nous avons chanté, je vis dans l'espérance. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, voici ce dont je veux me souvenir. Nous avons cette expression forte. Les bontés, je le sais, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. L'Éternel est mon espérance. Nous avons, dans un autre épisode, quelque chose aussi qui parle dans le même sens. C'est cette expérience que nous avons évoquée il n'y a pas longtemps, c'est pourquoi je ne reviens pas sur la lecture de ce passage d'Ézéchiel 37, où le prophète a la vision d'une vallée remplie d'ossements. Et le peuple dit à ce propos, parce que c'est une image du peuple, « Nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. » Et sur cette vallée où il n'y a que des ossements desséchés, le prophète est appelé à prophétiser pour que vienne l'esprit des quatre vents, qu'il souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et le prophète prophétise et l'esprit vient. Et tous ces ossements desséchés deviennent une armée. Dieu vient et redonne vie. Ça, c'est l'action directe et puissante de cette venue de l'Esprit. Et puis, il y a aussi cette autre manière pour Dieu d'apporter à nouveau l'espérance à son peuple. C'est une parole que nous trouvons dans le prophète Osée, où là encore, le prophète doit parler, même presque vivre, dans son exemple, cette terrible épreuve de ce peuple qui s'éloigne, qui s'égare, qui abandonne son Dieu et qui le trahit. Et que dit Dieu lorsque ce peuple est ouvert à nouveau à entendre la voix de celui qui n'a pas cessé de l'aimer ? Je vais conduire mon peuple au désert, dans ce lieu où il était dans la totale dépendance de moi. Je vais conduire mon peuple à nouveau au désert, là où c'est la solitude et où il n'y a pas des bruits qui viennent et d'autres voix. Je vais la conduire au désert et là, je parlerai à son cœur. je parlerai à son cœur. Et je lui dirai à nouveau mon amour. Et je lui donnerai accord comme une porte d'espérance. Accord qui deviendra une porte d'espérance. Qu'est-ce que c'était accord ? C'était une vallée dans laquelle s'était exercé un jugement terrible sur ceux qui s'étaient révoltés contre Dieu et contre Moïse. Et cette vallée, qui était celle du jugement et du châtiment, va devenir une porte d'espérance. Quelle magnifique expression ! Une porte d'espérance. En entendant cette parole, j'ai pensé à la fin de ce que Dieu dit dans l'avant-dernière lettre à cette Église, dans l'Apocalypse, où il dit à l'Église de Philadelphie, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Une porte d'espérance. Je voudrais encore citer deux autres textes de Jérémie qui disent d'une autre manière que l'espérance qui vient de Dieu apporte la promesse d'un avenir d'application proche et lointaine. Jérémie dit « Maudit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Ce n'est pas simplement Dieu donne l'espérance, Dieu est son espérance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Et une autre parole, toujours dans Jérémie, lorsque Dieu dit aux déportés de Babylone, ceux qui avaient été exilés, « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Et Dieu leur annonce qu'il va les faire revenir dans le pays. Un avenir plein d'espérance. Nous avons lu aussi ce que devient cette espérance lorsqu'elle est incarnée dans le Christ lui-même. Dieu est l'espérance du croyant, Jésus est notre espérance. Oui, il est notre espérance. L'apôtre Pierre dit au début de sa lettre, de sa première lettre, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Voilà ce qui est dit de toutes les manières et sur tous les tons dans le Nouveau Testament. L'espérance du chrétien, tout entière tournée vers la pleine réalisation du salut, le plein accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ, dont le gage et le sceau, c'est sa résurrection. Christ en vous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Par lui, nous sommes entrés dans une vie nouvelle. Cette vie qui nous permet de vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance que le Seigneur nous a apportée. Cette espérance dans laquelle nous sommes fermement établis. Cette belle espérance sur l'avenir final a des effets réels sur notre présent et sur notre avenir proche. L'apôtre Jean, après avoir dit aussi son émerveillement de savoir que nous sommes enfants de Dieu et que nous le sommes dans la réalité, que ce que nous serons n'a pas encore été totalement manifesté, mais que nous serons faits semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et l'apôtre dit, celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et pour finir, deux paroles étonnantes de l'apôtre Paul, qui achève de donner à l'avenir du chrétien une force et une dimension extraordinaires. J'en ai l'absolue certitude, dit l'apôtre. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous disions dimanche dernier que, bien sûr, nous ignorons tout de l'avenir proche. Notre avenir définitif, final, nous savons qu'il est vraiment dans la présence du Seigneur, mais nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Mais nous pouvons entendre cette parole qui nous dit que même dans l'ignorance où nous sommes de ce que sera notre lendemain, rien, pas même l'avenir, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, finalement, fondamentalement, pas de crainte, pas d'incertitude par rapport à la bonté du Seigneur et au fait qu'il nous tient dans sa main. Pas de frayeur dans la perspective de la tentation possible, de l'épreuve qui peut survenir. Elles ne peuvent pas briser notre espérance. Elles ne peuvent pas nous arracher à la main qui nous tient, la main de notre Dieu. Encore une parole de Paul, que personne ne mette sa fierté dans les hommes, car tout est à vous, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, c'est dans la première aux Corinthiens, l'univers, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Étonnant. Même l'avenir est à nous. Si la Bible ne, si l'apôtre Paul ne nous l'avait pas dit, nous n'aurions pas osé employer cette expression. Mais elle est là, cette expression. Et cette vérité est affirmée. Tout est à vous. L'univers, la vie, la mort, le présent ou l'avenir. L'avenir est à nous parce que nous sommes à Christ. Et je voudrais terminer en revenant à ce texte de Romains 5 que nous avons lu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous demeurons fermes dans cette grâce de Dieu, cette bonté, cette générosité de notre Père qui nous a donné la vie et qui nous l'a donnée pour l'éternité. Cette espérance dans laquelle nous voulons aussi demeurer fermement attachés. Et même si nous avons des épreuves, dit l'apôtre, des afflictions, nous pouvons faire de ces épreuves et de cette affliction des moyens de nous fortifier dans la foi, de persévérer, de nous fortifier dans la fermeté, dans la persévérance, dans le fait de tenir solidement ce que Dieu nous a donné. Et si nous persévérons dans cette persévérance, nous verrons s'accomplir aussi cette promesse de la victoire sur l'angoisse, de la victoire sur le péché, la victoire de la foi dans l'épreuve. Et c'est avec cette victoire conforte l'espérance. Voilà le message du Nouveau Testament, de l'Évangile, de la grâce. Nous sommes fermement établis dans cette espérance. Et nous pouvons utiliser aussi l'image qu'utilise l'auteur de la lettre aux Hébreux lorsqu'il dit que cette espérance, nous la possédons comme une ancre pour notre vie intérieure, une ancre de l'âme qui pénètre au-delà du voile où Jésus est entré pour accomplir pleinement le sacrifice expiatoire. Cette espérance, nous l'avons, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Et nous bénissons notre Dieu parce qu'il nous a donné cette espérance et il nous conserve dans la possibilité de la tenir fermement. Et c'est elle aussi qui nous tient. Tout est grâce et nous sommes dans la main de notre Dieu. Amen.